Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Escapade. Vous êtes bien dans Escapade et vous. Et on va vous parler aujourd'hui d'un festival qui est assez jeune. C'est la deuxième édition qu'il se produit. Ça s'appelle le festival Mer Nature. Ça sera ces 7, 8 et 9 juin 2025. Et ça se passe du côté de la salle. On sera au château du Saulier. C'est un festival sous le thème de l'autonomie, un festival des plantes. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'accueille Eléa et Ariane qui sont venus donc nous parler du festival Mer Nature et de l'association aussi Transmission qui porte le projet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors justement, cette association Transmission, donc ça s'écrit Transmission, avec un E au milieu, je ne sais pas si ça s'entend quand je le dis, mais il y a un petit jeu de mots. Elle date de quand et est-ce qu'elle est née justement pour créer ce festival ?
Alors, elle est née pour créer un festival l'année d'avant. Donc, on avait fait un premier festival qui s'appelle Origine Festival, qui est un festival de musique et d'ateliers divers. Et c'est l'année suivante, avec un des organisateurs de Origine, qu'on a voulu dédier un événement aux plantes et aux vivants. Donc voilà, c'était donc en 2024. On a fait la première édition de Mer Nature au camping de Isis en Cévennes. Voilà, qu'on avait choisi pour son cadre magnifique, avec la rivière, les grands arbres. Et puis, la propriétaire est une passionnée de plantes et d'arbres. Donc voilà, notre première édition s'est déroulée là-bas. Et cette année, on a fait un petit déménagement pour se rapprocher des locaux de l'association.
Qui sont donc à la salle,
à
si
la
j'ai
salle.
Bien suivi.
Exactement. Et donc, on a choisi le château du Saulier, qui est aussi un très bel endroit, un grand parc et un château magnifique qui regorge de plantes, bien sûr, c'est ce qu'on aime, et puis des grands arbres qui vont ombrager tout l'événement, dans lesquels on trouve aussi des structures pour les enfants. Et donc, voilà, cette année, on a vraiment mis l'axe sur le côté familial de l'événement. Donc, tout un espace dédié aux enfants, aux familles, avec des spectacles, des ateliers. Et puis après, on va aussi retrouver des conférences et des ateliers plus pratiques sur notre thème, qui est donc les plantes. Et pour cette deuxième édition, on a mis l'axe sur l'autonomie. Voilà.
Donc c'est un festival où on va venir se cultiver quand même pas mal.
Voilà.
Mais on aura compris dans ce préambule, on vient aussi passer du bon moment et surtout pas hésiter à venir en famille. Donc les enfants sont... Même s'ils n'ont pas envie de se faire toutes les conférences, ils auront de quoi s'occuper et profiter des vrais arbres.
Justement, ils pourront s'occuper pendant ce temps que les parents pourront aller aux conférences. C'est aussi l'avantage d'avoir un espace enfant, c'est que les enfants peuvent faire leur activité et les parents peuvent aller s'instruire et se cultiver et aussi apprendre à cultiver. Du coup, les plantes, parce que on a tout un tas d'ateliers qui vont aller du jardinage aux balades botaniques.
Oui, on va regarder ça un petit peu ensemble, les ateliers. Donc, je récapitule juste, c'est donc un festival qui est déjà, je rappelle déjà, sur 3 jours, hein, 7, 8, 9 juin. Donc, on est le samedi, dimanche et lundi férié. Vous avez suivi. Mais il y a même un petit préambule, puisqu'il y a aussi quelque chose le vendredi 6 juin. On va vous en parler avec un peu de cinéma. Donc des ateliers, des conférences et comme c'est un festival, il y a aussi des soirées musicales, hein, notamment le samedi, le dimanche et le lundi, avec des concerts. Donc tous les soirs, on va s'écouter un peu de musique aussi dans cette émission pour illustrer cela. Et donc tu voulais commencer par justement nous parler de ces ateliers, donc vraiment des ateliers où on met la main dans le concret. C'est ça ?
Voilà, c'est Ariane qui va nous présenter tout ça.
Qu'on s'était dit. Donc Ariane, je te laisse nous parler un petit peu de cet aspect pratico-pratique.
Alors, pour les ateliers de transmission, on a eu vraiment à cœur d'inviter des personnes qui ont des savoir-faire et qui sont initiées et où les participants seront invités à pratiquer. Donc, on aura l'occasion de découvrir les alcoolatures, qui sont des macérations hydroalcooliques de plantes, la gémothérapie, ce sont des macérations de bourgeons et de jeunes pousses de plantes dans de l'eau, alcool et glycérine ou miel. Et donc, durant ces ateliers, ils seront du coup initiés à fabriquer pour gagner en autonomie. Et il y aura aussi la transmission des propriétés, puisque ce sont de véritables alliés santé. On va mettre aussi à l'honneur l'herboristerie traditionnelle et scientifique. On a des invités de renom, comme par exemple Marilyn Brentegani, qui est une herboriste, ethno-herboriste, qui est auteur de plusieurs ouvrages et qui étudie et transmet des savoir-faire populaires. Voilà, elle a vraiment étudié les recueils ethno-botaniques anciens. On va inviter aussi des paysans herboristes vont du coup transmettre leur savoir, donc soit sur la transformation, soit sur la culture au jardin. On va avoir aussi l'aromathérapie qui sera mise à l'honneur sur cette édition, avec le soutien des huiles essentielles au quotidien, de leurs bienfaits et aussi comment les utiliser en conscience. Donc on va avoir un artisan parfumeur qui va nous transmettre ses savoirs et qui va aussi initier les gens à fabriquer leurs propres parfums. On va avoir aussi un distillateur qui va proposer des ateliers sur les hydrolats. Donc les hydrolats, ce sont en fait, c'est l'eau issue de la distillation. Donc lorsqu'il y a séparation de l'huile essentielle et de l'eau, en fait, dans l'eau, il y a aussi des molécules spécifiques, des principes actifs, qui sont moins connus, de manière générale, que les huiles essentielles. Et là, ce sera aussi l'occasion de découvrir c'est vraiment un bienfait aussi. C'est beaucoup plus doux que les huiles essentielles. Et du coup, cette personne qui s'appelle Éric Darlet, qui est distillateur sur le plateau du Larzac, qui fait beaucoup de cueillettes sauvages, c'est une personne qui est spécialisée pour du coup prendre soin des animaux et des plantes avec les hydrolats. Donc là, ça va être aussi une partie très intéressante.
Ça veut dire qu'il y aura tout le matériel sur place. On va assister à des fabrications d'hydrolats en direct, quoi.
Tout à fait. On aura aussi un autre agriculteur qui va venir avec son alambic et qui proposera en direct aussi de la distillation pour que les personnes puissent voir comment ça se passe et qu'on puisse aussi se rendre compte de la ressource qui est nécessaire. Du coup, il faut beaucoup de plantes pour réaliser des huiles essentielles. Donc ça permet aussi de prendre conscience de la valeur de l'huile essentielle et de sa puissance.
De remettre un peu du concret, parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles maintenant on est assez. Qui sont assez communes, hein, dans toutes les pharmacies on en trouve, mais déjà entre le coût financier que ça peut représenter et puis effectivement tout ce qu'il y a derrière, des fois des plantes qui viennent de très loin. Là, c'est histoire de ramener les choses un peu à une échelle plus proche de nous aussi.
Oui, de ramener une échelle à une échelle locale, parce que ce sont aussi des agriculteurs, des cultivateurs qui sont locaux. Ce sont des petits agriculteurs, petits au sens noble. Comme tu l'as dit, ils produisent pas à grande échelle. Et de sensibiliser aussi vraiment à cet art-là de cultiver et de transformer et de se rendre compte en fait du temps que ça représente et de la ressource aussi.
Si tu as fini de faire la liste à peu près des grandes thématiques, je voulais savoir du coup, ce sont donc des ateliers assez spécifiques. Est-ce qu'il faut présenter à l'avance pour avoir une place? Bon, les horaires et les lieux, je pense que les gens pourront trouver les informations. Moi, j'ai la plaquette dans les mains, un papier qui est très joli. Qu'elles sont disponibles quelque part sur Internet, ces informations ou pas? Ou
oui.
On vous contacte?
Alors, on peut nous contacter à l'adresse mail. Donc, c'est festival.mernature@proton.me. On peut retrouver toute la programmation sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et pour compléter cette petite partie, on aura aussi les balades botaniques. Et là, on a des intervenants aussi. Vraiment, on est très ravis de les accueillir. On aura Alain Renaud, qui est ethnobotaniste. Claire Moucault, qui elle aussi a œuvré au niveau local, qui a été anciennement une productrice de plantes, qui a cofondé le laboratoire Herbiolis, qui est très engagée. Et on aura aussi Olivier Picard, qui est cuisinier passionné de la gastronomie, qui a une école autour du coup de la cueillette sauvage, pour comment cuisiner des plantes sauvages, que ça soit intéressant au niveau gustatif, voilà. Et je voulais aussi mettre un point d'honneur aussi au fait qu'on a à cœur de relier l'art et la nature. Il y aura aussi un atelier de teinture végétale avec une artiste qui est passionnée de plantes et qui pourra initier toute la famille à apprendre la teinture végétale.
Voilà, si vous voulez aller réécouter et voir un petit peu à tête reposée tout ce dont on vient de parler, donc je rappelle que vous pouvez trouver les horaires et les infos donc sur les réseaux sociaux avec Festival Mère Nature pour vous présenter, peut-être pour justement être sûr d'être là au bon moment, au bon endroit, parce qu'il y a des choses sur 3 jours, mais tout ne se répète pas d'un jour sur l'autre. Donc n'hésitez pas à aller bien regarder en amont pour être sûr de ne rien rater. On peut peut-être se faire une petite pause musicale avant d'attaquer la suite de ce programme très riche. Et justement, on va écouter un des artistes ou des artistes qui se produisent le samedi soir. Ils seront sur la scène à 22h. C'est Kerchanga, je dis il, je ne sais pas si c'est il, s'ils sont plusieurs, si c'est un ou une.
C'est un duo franco-polonais qui habite à la salle actuellement. Et on vous laisse découvrir.
À tout de suite. le duo Kerchanga. Pour nous accompagner pendant cette escapade des vous en compagnie de Eléa et Ariane, nous décortiquons la programmation très riche du festival Mère Nature, la deuxième édition qui se tiendra cette année les 7, 8 et 9 juin au Château du Saulier à La Salle. Et on allait passer justement à la partie conférence de ce festival, qui est donc un festival où on est là aussi pour apprendre, pour échanger, partager pas mal de savoirs. Donc ça se passe aussi, pas que le soir, mais bien la journée. On a parlé de tous les ateliers savoir-faire et autonomie qui avaient lieu. Maintenant, on va parler des conférences, donc des personnes qui viennent transmettre des savoirs sur lesquels ils ont en général beaucoup travaillé. Eh bien, écoute, Eléa, je te laisse la parole pour nous détailler un petit peu toutes ces conférences que vous avez mises en place.
Pendant ce festival, on va accueillir des experts dans le domaine qui nous intéresse, les plantes et cette année, l'autonomie. Donc, on aura le grand Ernst Zürcher, notre invité d'honneur cette année, qui est auteur, chercheur, conférencier et professeur des hautes écoles en Suisse. Et donc, il va nous parler des forêts, comment les arbres peuvent être nos alliés pour l'avenir et comment on peut s'inspirer d'eux. Voilà, ensuite, nous allons pouvoir s'orienter dans un domaine qui a le vent en poupe en ce moment, les champignons adaptogènes. C'est Thierry Horry qui va nous parler de la mycothérapie. Il a été pendant 17 ans dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et suite à une formation en médecine chinoise, il s'est orienté vers la mycothérapie. Il nous en parlera très bien lors de deux conférences. Après, il y aura aussi Angela qui viendra nous faire une intervention sur l'école des bois. Donc, comment nos amis, les plantes, plus particulièrement, comment l'éducation peut aussi se transformer dans la nature. C'est au Canada qu'est né ce mouvement des écoles de la forêt. Elle va donc nous présenter comment éduquer les enfants et les adolescents dans la joie des apprentissages au cœur de la nature. Voilà, ensuite, on aura Stéphane Boistard, un invité qui était déjà présent l'année dernière, qui nous a préparé deux interventions pour nous parler de la connexion au vivant. Et c'est le spécialiste de la gémothérapie et de la sylvothérapie en France. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pourrez découvrir aussi pendant le festival. Et puis, pour revenir à notre thématique, toujours l'autonomie cette année, on va partir dans le monde de la presse indépendante avec le rédacteur en chef et journaliste Yvan Saint-Jour, qui a créé la revue La Maison écologique, le magazine Kaizen, et cette année, il vient nous présenter son dernier projet, le journal Esprit Autonome, qui est donc tout à fait dans notre thème de cette deuxième édition. Et il nous fera deux conférences, une conférence sur une maison 100% autonome à moins de 15 000 euros, donc comment construire sa maison vraiment avec un tout petit budget et être en autonomie totale. Donc, on a vraiment hâte de savoir comment s'y prendre. Et ensuite, Philippe Pélan va aussi nous parler d'autonomie. Et on a la chance de l'avoir au téléphone pour qu'il nous présente ses deux conférences.
Tout à fait, on va l'appeler d'ici quelques instants. On écoute un petit peu de musique et on va effectivement joindre par téléphone Philippe Pélan juste après. À tout de suite.
Allongée près de toi, je songe. Et les mots n'existent pas, peut-être trop souvent indécis. Sage comme une image allongée près de toi, je songe. et les mots n'existent pas peut-être. Trop souvent indécis.
Obéialous, ça, tu es entré
comme une main,
tout doucement, tranquillement.
Allongé près
sur
de toi,
l'horizon, son, de mes raisons
et les mots.
Comme le poule sans rémission
n'existe pas
quand la magie,
ça,
sur mes envies
comme une main.
Le vent souffle éperdument.
Allongé près de
toi, j'y vois clair,
ça,
j'y vois bien clair.
Et les mots
dans la lumière sur notre terre
n'existe pas peut-être.
Oh, Obéialous,
tu es entré tout doucement.
Obéialous,
tout doucement, tranquillement. Allongé près de toi, je songe et les mots n'existent pas peut-être. Trop souvent indécis. Quand je te regarde, pas le temps, mille choses se dessinent et s'improvisent. Et j'aimerais te dire, mais trop vite. Quand je te regarde, pas le temps. Et j'aimerais te dire, mais trop vite. Quand je te regarde, j'aimerais te dire.
Maintenant que j'y vois, je vois la lune, même qu'elle nous ment de temps en temps. Nous sommes comme elle, lorsqu'on décroît, c'est pour mieux croire en soi. Comme elle, lorsqu'on décroît, c'est pour mieux croire en soi.
Obéialous, tu es entré tout doucement.
Obéialous,
tout doucement, tranquillement.
Obéialous,
tu es entré tout doucement.
Obéialous.
Avec toi, je veux passer tout mon temps, mais tout mon temps est dérisoire. Que les instants s'égrènent dans le fond d'un tiroir. Mes pensées s'en mêlent et maintenant semble trop tard. Et maintenant semble trop tard. Et comment faire, hein, quand maintenant semble trop tard.
C'est comme l'arbre, quand il regarde, il perd ses branches de temps en temps. Pour s'alléger, pour mieux pousser, pour laisser place à la nouveauté. Pour s'alléger, pour mieux pousser, pour laisser place à la liberté.
Obéialous, tu es entré tout doucement.
Obéialous,
tout doucement, tranquillement.
Obéialous,
tu es entré tout doucement.
Obéialous.
Nous sommes donc au téléphone avec Philippe Pellan. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors Philippe Pellan, vous venez donc présenter deux conférences, le dimanche 8 et le lundi 9 juin, deux conférences autour de la même problématique, c'est donc penser un écolieu. Donc la première, c'est à 14h30, ça sera donc analyser le potentiel d'un site, donc en amont j'imagine, et ensuite la deuxième partie, ça sera donc le lendemain à 16h30 sur la réalisation du design d'un écolieu. Est-ce qu'avant de un petit peu nous expliquer ce que vous allez raconter dans ces conférences, on peut savoir comment est-ce que vous êtes arrivé justement à ces compétences et à développer cette analyse, notamment de ce dont a besoin un écolieu ?
Moi j'ai toujours été attiré par la nature, déjà, la nature sauvage, la nature originelle. Il faut savoir que j'ai suivi mes études. Mais depuis tout jeune, même collège, lycée, dans des lieux privés, au milieu des forêts, avec des lacs, où je pêchais, je construisais des cabanes. Donc j'étais déjà dans un environnement qui prédispose à m'intéresser à ce qui se passe dans la nature, à pouvoir observer plein de choses. Et donc tout naturellement, après par la suite, j'ai suivi des études d'horticulture. Donc tout d'abord pour apprendre à multiplier les plantes, et puis après des études de paysagiste pour apprendre à agencer les plantes, comment créer un design. À l'époque on n'appelait pas ça le design, c'était simplement des plantes de jardin, on était paysagiste, il n'y avait pas encore de notion d'écologie et ni d'enseignement de bio dans les cours théoriques. Et je me suis formé comme paysagiste. Et le changement est venu entre guillemets des clients. C'est-à-dire les gens venaient vers moi et me disaient on pourrait pas faire un bassin plutôt comme ci, comme ça, on aimerait avoir dans notre bassin telle plante, tels animaux, on aimerait bien pouvoir observer des grenouilles, des tritons. Et pareil pour les jardins potagers. Donc les demandes venant de l'extérieur, et comme les formations n'existaient pas dans des cycles classiques, j'ai commencé à me former auprès de spécialistes. C'est ce qui m'a permis de rencontrer David Holmgren, l'Australien qui a créé le concept de permaculture, avec Bill Mollison. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, par l'observation des écosystèmes naturels, on peut en retirer des règles, des lois, des systèmes de fonctionnement pour nos jardins classiques. Voilà, donc vous connaissez un peu la permaculture. Ensuite, comme j'ai travaillé beaucoup dans les bassins, la valorisation des eaux pluviales, je me suis formé auprès de Anne Rivière, qui est docteur en environnement. C'est elle qui a amené le concept de phytoépuration. Voilà, on connaît les fosses septiques classiques, et donc la phytoépuration, ce sont comment traiter. Alors là, c'est un peu pareil que la permaculture, c'est on observe un écosystème, là en l'occurrence le système des marécages. Il faut savoir qu'un marécage au départ, c'est un lieu où l'eau arrive trouble, salie, remplie entre guillemets d'impuretés. Ce ne sont pas des impuretés puisque normalement c'est des argiles. Et à la sortie d'un marécage, l'eau sort très propre. Bon, ça devient de plus en plus rare d'observer des marécages qui n'ont pas été touchés par l'homme. Mais voilà, donc on a créé ces systèmes de phytoépuration pour traiter nos eaux usées et pouvoir les réutiliser au jardin. Alors qu'est-ce que j'avais. Et puis après, de fil en aiguille, à chaque fois qu'on me demandait, ou même après, j'ai pris les devants. J'ai continué à me former, c'est là aussi que j'ai pu rencontrer l'agriculture synergétique. Donc l'agriculture synergétique, c'est un peu comme la permaculture. Vous avez deux branches qui viennent du microbiologiste. Au départ, tout vient pratiquement du microbiologiste japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka. Donc il y a la branche permaculture qui s'est développée en Australie, et en Europe, il y a la branche agriculture synergétique. C'est-à-dire, là aussi, on observe les écosystèmes naturels, et là aussi, on s'aperçoit que dans les écosystèmes naturels, toutes les espèces agissent en synergie pour créer un équilibre, pour qu'il n'y ait pas de... Dans les cultures conventionnelles, on entend souvent parler de déséquilibre, une espèce qui devient invasive, voilà, alors que quand on est dans une forêt originelle, on n'a pas ces déséquilibres, tout s'autorégule, tout s'harmonise, tout s'équilibre naturellement. Donc les recherches de Fukuoka, de Bill Mollison, David Holmgren et Emilia Zulip étaient autour de comment reproduire toutes ces lois naturelles dans nos cultures et recréer ce qu'on appelle maintenant des jardins-forêts. À l'époque, ce terme n'existait pas. Et je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir de notre alimentation. Ça fera puiser nos aliments, notre nourriture, notre médecine dans des espèces de forêts originelles recréées toutes pièces, mais qui seront après s'auto-régulées. Bon, ça, voilà un petit peu pour mon cheminement.
Ouais, on comprend déjà un petit peu du coup les dessins de ce que pourrait être une définition d'un écolieu. Oui. J'imagine que c'est compliqué d'en donner une seule, vu que ça va dépendre du lieu et de l'environnement dans lequel on a envie de l'implanter. C'est un petit peu ça que vous allez essayer de transmettre, du coup, par exemple, pour la première conférence.
Oui,
le côté potentiel d'un site.
Voilà, donc à partir du moment où on a défini justement nos besoins en tant qu'humains, c'est-à-dire se nourrir, mais se nourrir, ça peut être une alimentation végétarienne ou une alimentation... carnet, bon, déjà, ça va pas générer les mêmes environnements autour dans le lieu, quand vous avez un élevage ou quand vous avez juste un potager. Donc il y a définir, on définit où on en est nous en tant qu'humains, comment on se place nous sur Terre et de quoi on a besoin, donc les trucs basiques, hein, les potagers, de quoi se nourrir, de quoi habiter, de quoi s'abreuver, de quoi... là, on a une vie moderne, mais il y a des écolieux qui se passent d'électricité. Mais donc, là, la plupart des gens ont besoin d'électricité. Donc, nos besoins posés vont déterminer notre recherche du lieu. Et une fois qu'on est sur un lieu, est-ce que cet environnement va répondre à nos besoins ? Il peut déjà y répondre parfois par certaines choses, il peut déjà y avoir des bâtiments, mais parfois il n'y a pas forcément de potager, il n'y a pas forcément de grange ou d'étables pour accueillir des animaux. Donc nous, dans un écolieu, on peut dire on a une liste d'aménagements à réaliser pour aller vers l'autonomie, on va dire. Ce que j'appelle l'autonomie, c'est pas l'autarcie, c'est pas le repli sur soi. L'autonomie, dans une vision, se rapprocher le plus possible d'un écosystème. C'est-à-dire, on va mettre en place des choses qui vont agir en synergie de la même manière. C'est-à-dire que on consomme de l'eau, mais cette eau nous sert aussi, c'est un cycle qui va aussi nous servir à arroser le jardin. Par exemple, quand je suis dans ma douche, je sais que cette eau est recyclée et va après servir à irriguer. Oui, c'est des choses comme ça. Donc, qu'analyse-t-on ? On analyse le sol, savoir quelle est la nature du sol. Est-ce qu'on va pouvoir y cultiver telle ou telle plante ? Quel est le taux d'ensoleillement ? C'est important pour les plantes, mais c'est aussi important si on y met les panneaux solaires. Qu'allons-nous voir d'autre ? Si par exemple on a pas mal de vent, ça peut être une chance pour mettre une éolienne, mais ça peut être aussi un problème pour les plantes qui vont se dessécher. Donc toutes ces choses-là doivent être notées quelque part. Idéalement tout au long de l'année, ici on a quatre saisons bien marquées et on va observer d'une saison à l'autre jusqu'où va le soleil, à quel moment le vent souffle le plus fort, est-ce qu'il y a une zone inondable, ça peut arriver. Donc on note tout ça tout au long de l'année, on note idéalement un an, hein. Parfois on n'a pas trop le temps, donc dans ces cas-là on utilise ce qu'on appelle les bio-indications. C'est-à-dire qu'il y a des choses observables qui peuvent nous dire que ah là c'est inondable en hiver. Mais et mettons que nous faisions notre balade en été et que la terre soit sèche. Mais si par exemple je vois de la prêle, des orties, de la consoude, vous voyez des saules, des choses comme ça, je me dis oulala, il y a peut-être une chance que ça soit humide. Vous voyez, donc pendant cette conférence, on va répertorier un peu nos besoins, et puis on va, en fonction de nos besoins, qu'est-ce qu'on doit analyser dans notre environnement pour y vivre le plus autonome possible et le plus en respect du lieu. Voilà. Et je dirais même plus que du respect. Parfois, on arrive sur des lieux qui ont besoin d'une régénération. Donc, on peut aussi aborder. En faisant notre analyse, on peut aussi noter qu'on va devoir régénérer telle ou telle zone. Voilà un petit peu
l'idée, c'est, si j'ai bien suivi, c'est surtout de ne pas se lancer dans des projets qui seraient complètement irréalistes et qui nous amèneraient vers des erreurs, peut-être. Essayer d'anticiper justement tout ce qui peut se présenter à nous, même si on n'a pour l'instant peut-être jamais vécu dans cet endroit-là.
Tout à fait. Avec, mais ça, on le voit dans un second temps. Ça sera plutôt pour la deuxième conférence. Et c'est bien ce que vous soulignez, d'éviter les erreurs. Après, il va y avoir une chronologie. C'est-à-dire, la première étape, c'est d'appréhender l'environnement. Deuxième étape, c'est de dessiner le lieu et d'y placer les divers aménagements. Et la troisième étape, c'est comment on aménage. Et là, il y a une chronologie à tenir pour pas mettre ce qu'on appelle la charrue avant les bœufs.
Bon,
je vois beaucoup de désenchantement quand il y a un retour à la terre, notamment par des personnes qui arrivent de la ville, parce qu'il y a cette espèce d'impatience et voilà, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites parce qu'on croit que vivre dans la nature, Vous cultivez un jardin, c'est facile, mais c'est très complexe en fin de compte. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte.
Et donc vous êtes là pour partager justement un peu d'expérience, pour peut-être inspirer et donner du courage aux aspirants. Merci beaucoup de nous avoir un petit peu partagé les lignes de ce qu'on va pouvoir regarder justement en détail. Après, j'imagine que chaque situation, peut-être il y aura des questions précises de la part du public justement qui seront sur des cas concrets.
Il y a une bonne partie questions à la fin de la conférence.
Et oui, parce que chacun a envie, j'imagine, d'avoir sa recette pour son lieu. Merci beaucoup. Eléa et Ariane, vous voulez dire un petit mot avant qu'on dise au revoir à notre invité ? Parce qu'après, on va arriver au terme de cette émission, on va clôturer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ce temps avec nous.
Avec plaisir.
Et puis voilà, je rappelle que les horaires donc, de ces conférences sont à retrouver sur le programme de Mère Nature. Merci Philippe Pellin, à très bientôt.
Merci, bientôt. Bonne journée.
Escapade.
Et vous ?
Nous continuons donc et nous allons terminer cette émission avec Ariane et Léa pour parler donc toujours du festival Mère Nature. On voulait terminer justement par, on en a écouté quelques-uns, évoquer les artistes qui vont se produire le soir sur scène, puisqu'il y a de la musique, c'est un festival, on l'a dit, il y aura beaucoup de, vous l'aurez compris, de matières instructives, intellectuelles et manuelles, des choses à ingérer, mais il y aura aussi de la musique et des arts pour se faire du bien. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu les artistes qui seront présents ces soirs-là, Ariane ?
Oui, avec plaisir. Et oui, nous, le soir, on a envie de décompresser. Et c'est vrai qu'avec Eléa, il nous tenait vraiment à cœur de mettre en avant la musique. Et alors, on a choisi 5 groupes de musique. Enfin, il y aura 5 concerts, en fait. Et il y aura, 3 groupes. Et 2 artistes qui se produiront en solo. Alors, pour vous les présenter rapidement dans l'ordre de passage, le samedi, on aura un trio féminin qui s'appelle Nil. Ce sont 3 amies qui sont émergentes. Et donc, elles vont proposer un concert qui va être... assez dynamique, chantant, au rythme des percussions. C'est très mélodieux, elles sont drôles. On a hâte de les découvrir. Ça va faire partie, en fait, de leur premier concert. Donc, on est ravis de les inviter. Elles sont aussi très inspirées par la nature. Elles proposent... beaucoup de... ce sont des chansons à texte qui sont empreintes de poésie. Donc, c'est vraiment dans le thème. En deuxième partie, on aura Karshanga, qu'on a eu l'occasion d'écouter tout à l'heure, qui est un duo franco-polonais. C'est une musique qui fusionne avec des inspirations de musique traditionnelle africaine. Donc, Olivia, elle chante et elle joue du ngoni. C'est une guitare traditionnelle de l'ouest de l'Afrique. Ils vont proposer un concert qui va mélanger des rythmiques rock, électronique. Voilà, Matt, lui, il est à la guitare. Il y aura des loops. Donc ça sera... punchy, dansant, parfait pour la deuxième partie.
Et le dimanche 8 juin alors.
Et le dimanche, on aura Petit Nomade en première partie. Donc lui, c'est un chanteur et guitariste qui propose une immersion musicale et poétique où il inclut vraiment aussi le public. Donc lui, il propose une chanson aux sonorités c'est d'influence, c'est vraiment de la variété française où il va y avoir beaucoup de contes. Il se dit poète troubadour et d'ailleurs il proposera aussi un spectacle à l'espace enfant. Donc voilà, il est vraiment tourné vers le public familial. Et en deuxième partie, On aura le groupe iJam. Et donc, voilà, là, en deuxième partie, c'est toujours plus dynamique. Et là, ce sera un concert qui sera plutôt dans un style trans-instrumental. Donc, c'est un groupe qui joue du didgeridoo, de la percussion, de la flûte. Donc, c'est très riche. Et donc, ça sera très dansant.
Et on peut parler des concerts donc du lundi 9 juin, donc le dernier jour de ce festival, puisque je rappelle que c'est un lundi férié.
Oui, donc le lundi, on a vraiment la chance de pouvoir accueillir Pouria Raisi. C'est un virtuose iranien. Il joue de la musique depuis qu'il est enfant. Donc il est vraiment un expert des percussions, notamment du daf. Et il s'est initié aussi très jeune au tambur. Donc c'est un luth à manches longues qu'il maîtrise vraiment à la perfection. Là, si vous avez l'occasion, vraiment, en fait, venez le voir. Il faut venir le voir et voir son délié de sa main lorsqu'il joue. Voilà, c'est vraiment très inspirant. Et donc, du coup, il nous proposera un concert de musique fusion. Donc, vous l'avez compris, aux influences des traditions musicales du Moyen-Orient. Donc, c'est une musique qui fait voyager. Et il invitera aussi tous ceux qui le souhaitent à se réunir pour une jam musicale, dansante, pour finir l'expérience.
Et alors, on a vu la fin du festival et on s'est dit, là, hors antenne, qu'on allait parler du tout début du festival. Je vous l'ai dit au début de cette émission, on vous parle depuis tout à l'heure du 7, 8 et 9 juin, mais en fait, il y a déjà quelque chose le vendredi soir, donc le 6 au soir, non, le jeudi ou le vendredi, le vendredi, c'est ça, le vendredi 6 juin, il y a déjà une petite proposition.
Oh oui, c'est ça. Alors en fait, du coup, on a décidé avec Elia, puisque du coup c'est le week-end de Pentecôte et que le lundi est férié, on s'est dit que les personnes qui prennent leur passe 3 jours, elles peuvent arriver donc dès le vendredi. Donc l'ouverture du festival, c'est le vendredi à 18h. Et du coup, on va proposer une soirée cinéma en plein air, avec une rencontre avec la réalisatrice. Et donc, le film, donc ça s'appelle « La ferme florale » de Camille. Et c'est un film documentaire qui raconte l'histoire d'une floricultrice avéronaise. Donc, voilà, on est vraiment dans le thème des plantes. Et donc, voilà, ça va être une magnifique soirée. Il y aura une rencontre avec la réalisatrice, donc Caroline Breton, qui réalise de nombreux films documentaires autour des plantes, de l'architecture, de l'agriculture, des forêts tropicales. Donc, voilà, ça sera une belle introduction pour le week-end.
Bon. Et puis, puisque justement, on a commencé à parler de l'arrivée, de l'accueil, on peut peut-être terminer en parlant des informations pratiques. Donc, on a compris qu'on pouvait dormir sur place. J'imagine qu'il y a un camping ou quelque chose qui ressemble à ça.
Oui, alors pour ceux qui étaient déjà là à la première édition, comme vous l'aurez compris, on déménage cette année. Donc, ça sera un espace de camping au pied du château qui vous accueillera. Et pour les gens qui dorment dans leur véhicule, qui ont des camions aménagés au camping-car, il y a aussi un parking dédié à accueillir vos véhicules. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent un peu plus de confort, il y a le village de La Salle qui est vraiment à 4 minutes en voiture et donc... et qui regorge de sympathiques petits gîtes et chambres d'hôtes. Voilà, il y a aussi cette option. Donc, plein d'options. Et nous faisons également des passes à la journée. Donc, pour des gens qui souhaitent venir juste la journée puis rentrer tranquillement chez eux le soir, c'est possible aussi.
Et tout ça, d'ailleurs, se passe sur Hello Asso. On a oublié de le préciser.
Voilà.
Une billetterie en avance, une billetterie en ligne qui existe.
Exactement. Du coup, la billetterie, c'est sur le site Hello Asso, Festival Mère Nature. Et il y a plusieurs options possibles. Donc, il y a le pass de 3 jours avec la soirée réservée pour les passes 3 jours du vendredi soir avec la belle projection de Caroline Breton. Et ensuite, passe à la journée. Voilà, vous pouvez réserver tout ça en avance. Et d'ailleurs, c'est mieux de réserver votre passe en amont car on a une jauge limitée. Oui, c'est pas un site très grand, donc voilà, on vous conseille de faire ça. Puis, pour continuer sur les infos pratiques, il y aura aussi donc, la possibilité de dormir sur place, mais aussi de manger sur place. Il y aura des food trucks, des stands de restauration, des crêpes, des galettes. Bon, voilà, tout pour ravir vos papilles. Et puis, entre les ateliers, les conférences et tout ça, vous pourrez découvrir des stands d'artisans qui seront présents aussi et des pépiniéristes, pouvoir ensuite appliquer tous les beaux conseils que vous aurez entendus pendant les interventions de nos experts sur vos propres plantes.
Voilà. Voilà. On l'a dit au début aussi, mais on peut le redire à la fin. C'est donc aussi tout à fait conseillé et bienvenu de venir avec des enfants, puisqu'il y a de l'espace, on est dans un cadre verdoyant, il y a des jeux, il y a même un petit spectacle, par exemple, le samedi soir à 18h, Ila Maya. On a dit le matin, des choses pour les gens qui dorment sur place. Enfin voilà, c'est un petit village qui s'installe pour 3 jours.
Oui, on aura le matin des réveils corporels. Donc, pour les plus matinaux, à 8h30 tous les jours, on peut faire du yoga ou de la méditation, toutes sortes d'activités. De la danse, voilà. Chacun va choisir un petit peu comment il a envie de se réveiller. Il y a aussi le café, au chill out, tranquille. Il y en a pour tous les goûts, vraiment.
Voilà, les conférences ne commencent pas avant 10h30 pour ceux qui préfèrent dormir tard. Ariane et Léa, merci beaucoup d'être venus nous parler du festival Mère Nature. Vous représentez aussi l'association Transmission, je l'ai dit. Donc on retrouve les infos sur en papier ou alors sur Facebook et Instagram, c'est ça?
Oui, c'est ça, en attendant d'avoir un site internet.
Et vous pouvez leur écrire pour toutes questions ou des réservations ou des demandes particulières. Donc c'est festival.mernature@proton.me. Et on va se quitter en musique, on va justement écouter Pouria Reissi, qui donc est en concert le dimanche soir pour clôturer ce festival. Le lundi soir, j'ai du mal à penser que c'est le lundi, le dimanche. Il clôture aussi notre émission. Voilà, on écoute le morceau qui s'appelle The Banyan's Whisper. Merci à vous.
Merci.
À très bientôt.
Merci.